Chapitre 13. Un bon conseil. Après la conclusion de la paix entre la France et l'Autriche, vers la fin du mois de février 1806, un parent qui, lors de la demande en radiation, s'était employé pour messieurs de Simeuse et devait plus tard leur donner de grandes preuves d'attachement, le ci-devant marquis de Chargebœuf, dont les propriétés s'étendent de Seine-et-Marne dans l'Aube, arriva de sa terre à Cinq-Cygnes dans une espèce de calèche que, dans ce temps, on nommait par raillerie un berlingot. Quand cette pauvre voiture enfila le petit pavé, les habitants du château, qui déjeunaient, eurent un accès de rire. Mais en reconnaissant la tête chauve du vieillard, qui sortit entre les deux rideaux de cuir du berlingot, M. d'Auxerre le nomma, et tous levèrent le siège pour aller au-devant du chef de la maison de Chargebœuf. Nous avons le tort de nous laisser prévenir, dit le marquis de Simeuse à son frère et au d'Auxerre. Nous devions aller le remercier. Un domestique, vêtu en paysan, qui conduisait de dessus un siège attenant à la caisse, planta dans un tuyau de cuir grossier un fouet de charretier et vint aider le marquis à descendre. Mais Adrien et le cadet de Simeuse le prévinrent, défirent la portière qui s'accrochait à des boutons de cuivre et sortirent le bonhomme malgré ses réclamations. Le marquis avait la prétention de donner son berlingot jaune à portière en cuir pour une voiture excellente et commode. Le domestique, aidé par Gothard, dételait déjà les deux bons gros chevaux à croupe luisante et qui servaient sans doute autant à des travaux agricoles qu'à la voiture. Malgré le froid, mais vous êtes un preux des anciens jours, dit Laurence à son vieux parent en lui prenant le bras et l'emmenant au salon. Ce n'est pas à vous à venir voir un vieux bonhomme comme moi, dit-il avec finesse en adressant ainsi des reproches à ses jeunes parents. Pourquoi vient-il ? Se demandait le bonhomme d'Auxerre. Monsieur de Chargebœuf, joli vieillard de 67 ans, en culotte pâle, à petites jambes, frêles et vêtues de bas chinés, portait un crapaud, de la poudre et des ailes de pigeon. Son habit de chasse, en drap vert à boutons d'or, était orné de brandebourgs en or. Son gilet blanc éblouissait par d'énormes broderies en or. Cet attirail, encore à la mode parmi les vieilles gens, seyait à sa figure, assez semblable à celle du grand Frédéric. Il ne mettait jamais son tricorne pour ne pas détruire l'effet de la demi-lune dessinée sur son crâne par une couche de poudre. Il s'appuyait la main droite sur une canne à bec à corbin, en tenant à la fois et sa canne et son chapeau par un geste digne de Louis XIV. Ce digne vieillard se débarrassa d'une douillette en soie et se plongea dans un fauteuil, en gardant entre ses jambes son tricorne et sa canne, par une pose dont le secret n'a jamais appartenu qu'aux roués de la cour de Louis XV et qui laissait les mains libres de jouer avec la tabatière, bijou toujours précieux. Aussi le marquis tira-t-il de la poche de son gilet, qui se fermait par une garde brodée en arabesque d'or, une riche tabatière. Tout en préparant sa prise et offrant du tabac à la ronde par un autre geste charmant, accompagné de regards affectueux, il remarqua le plaisir que causait sa visite. Il parut alors comprendre pourquoi les jeunes émigrés avaient manqué à leur devoir envers lui. Il eut l'air de se dire « Quand on fait l'amour, on ne fait pas de visite. » « Nous vous garderons pendant quelques jours, » dit Laurence. « C'est chose impossible, » répondit-il. « Si nous n'étions pas si séparés par les événements, car vous avez franchi de plus grandes distances que celles qui nous éloignent les uns des autres, vous sauriez, cher enfant, que j'ai des filles, des belles filles, des petites filles, des petits enfants. Tout ce monde serait inquiet de ne pas me voir ce soir, et j'ai 18 lieues à faire. « Vous avez de bien bons chevaux, » dit le marquis de Simeuse. « Oh, je viens de Troyes, où j'avais affaire hier. » Après les demandes voulues sur la famille, sur la marquise de Chargebœuf et sur ces choses réellement indifférentes auxquelles la politesse veut qu'on s'intéresse vivement, il parut à M. d'Auxerre que M. de Chargebœuf venait engager ses jeunes parents à ne commettre aucune imprudence. Selon le marquis, les temps étaient bien changés et personne ne pouvait plus savoir ce que deviendrait l'empereur. Oh, dit Laurence, il deviendra Dieu. Le bon vieillard parla de concessions à faire. En entendant exprimer la nécessité de se soumettre, avec beaucoup plus d'assurance et d'autorité qu'il n'en mettait à toutes ses doctrines, M. d'Auxerre regarda ses fils d'un air presque suppliant. « Vous serviriez cet homme-là ? » dit le marquis de Simeuse au marquis de Chargebœuf. « Mais oui, s'il le fallait, dans l'intérêt de ma famille. » Enfin, le vieillard fit entrevoir, mais vaguement, des dangers lointains. Quand Laurence le somma de s'expliquer, il engagea les quatre gentilshommes à ne plus chasser et à se tenir quoi chez eux. « Vous regardez toujours les domaines de Gondreville comme à vous, » dit-il à messieurs de Simeuse. « Vous ravivez ainsi une haine terrible. Je vois à votre étonnement que vous ignorez qu'il existe contre vous de mauvais vouloirs à Troyes où l'on se souvient de votre courage. » Personne ne se gêne pour raconter comment vous avez échappé aux recherches de la police générale de l'Empire, les uns en vous louant, les autres en vous regardant comme les ennemis de l'empereur. Quelques séides s'étonnent de la clémence de Napoléon envers vous. Ceci n'est rien. Vous avez joué des gens qui se croyaient plus fins que vous, et les gens de bas étage ne pardonnent jamais. Tôt ou tard, la justice, qui dans votre département procède de votre ennemi, le sénateur Malin, car il a placé partout ses créatures, même les officiers ministériels, sa justice donc sera très contente de vous trouver engagé dans une mauvaise affaire. Un paysan vous cherchera querelle sur son champ quand vous y serez, vous aurez des armes chargées, vous êtes vif, un malheur est alors bientôt arrivé. Dans votre position, il faut avoir 100 fois raison pour ne pas avoir tort. Je ne vous parle pas ainsi sans raison. La police surveille toujours l'arrondissement où vous êtes et maintient un commissaire dans ce petit trou d'Arcy, exprès pour protéger le sénateur de l'Empire contre vos entreprises. Il a peur de vous et il le dit. « Mais il nous calomnie !» s'écria le cadet des Simeuses. « Il vous calomnie, je le crois, moi. Mais que croit le public ? Voilà l'important. Michu a mis en joue le sénateur, qui ne l'a pas oublié. Depuis votre retour, la comtesse a pris Michu chez elle. Pour bien des gens, et pour la majeure partie du public, Malin a donc raison. Vous ignorez combien la position des émigrés est délicate en face de ceux qui se trouvent posséder leurs biens. Le préfet, homme d'esprit, m'a touché 2 mots de vous hier, qui m'ont inquiété. Enfin, je ne voudrais pas vous voir ici. » Cette réponse fut accueillie par une profonde stupéfaction. Marie-Paul sonna vivement. « Gothard, dit-il au petit bonhomme qui vint, allez chercher Michu. » L'ancien régisseur de Gondreville ne se fit pas attendre. « Michu, mon ami, dit le marquis de Simeuse, est-il vrai que tu aies voulu tuer Malin ? Oui, monsieur le marquis, et quand il reviendra, je le guetterai. Sais-tu que nous sommes soupçonnés de t'avoir aposté, que notre cousine, en te prenant pour fermier, est accusée d'avoir trempé dans ton dessein ? « Bonté du ciel !» s'écria Michu. « Je suis donc maudit ? Je ne pourrai donc jamais vous défaire tranquillement de Malin ?»« Non, mon garçon, non !» reprit Paul-Marie. « Mais il va falloir quitter le pays et notre service. Nous aurons soin de toi. Nous te mettrons en position d'augmenter ta fortune. Vends tout ce que tu possèdes ici. Réalise tes fonds, nous t'enverrons à Trieste chez un de nos amis qui a de vastes relations et qui t'emploiera très utilement jusqu'à ce qu'il fasse meilleur ici pour nous tous. » Des larmes vinrent aux yeux de Michu qui resta cloué sur la feuille du parquet où il était. « Y avait-il des témoins quand tu t'es embusqué pour tirer sur Malin ?» demanda le marquis de Chargebœuf. « Grévin, le notaire, causait avec lui. C'est ce qui m'a empêché de le tuer, et bien heureusement, madame la comtesse sait le pourquoi, » dit Michu en regardant sa maîtresse. « Ce Grévin n'est pas le seul à le savoir, » dit monsieur de Chargebœuf, qui parut contrarié de cet interrogatoire, quoique fait en famille. « Cet espion, qui, dans le temps, est venu pour entortiller mes maîtres, le savait aussi, » répondit Michu. Monsieur de Chargebœuf se leva comme pour regarder les jardins et dit « Mais vous avez bien tiré parti de 5 signes ?» Puis il sortit, suivi par les 2 frères et par Laurence, qui devinèrent le sens de cette interrogation. « Vous êtes francs et généreux, mais toujours imprudents, » leur dit le vieillard. « Que je vous avertisse d'un bruit public qui doit être une calomnie, rien de plus naturel, Mais voilà que vous en faites une vérité pour des gens faibles comme monsieur, madame d'Auxerre et pour leur fils. Ô jeunes gens, vous devriez laisser Michu ici et vous en aller, vous. Mais en tout cas, si vous restez dans ce pays, écrivez un mot au sénateur au sujet de Michu. Dites-lui que vous venez d'apprendre par moi les bruits qui couraient sur votre fermier et que vous l'avez renvoyé. Nous ? S'écrièrent les deux frères. Écrire à Malin, à l'assassin de notre père et de notre mère, au spoliateur effronté de notre fortune ? Tout cela est vrai, mais il est un des plus grands personnages de la cour impériale et le roi de l'aube. Lui qui a voté la mort de Louis XVI dans le cas où l'armée de Condé entrerait en France, sinon la réclusion perpétuelle, dit la comtesse de Cinq-Cygnes. Lui qui peut-être a conseillé la mort du duc d'Enghien, s'écria Paul-Marie. Eh, mais si vous voulez récapituler ces titres de noblesse, s'écria le marquis, lui qui a tiré Robespierre par le pan de sa redingote pour le faire tomber quand il a vu ceux qui se levaient pour le renverser les plus nombreux, lui qui aurait fait fusiller Bonaparte si le 18 Brumaire eût manqué, lui qui ramènerait les Bourbons si Napoléon chancelait, lui que le plus fort trouvera toujours à ses côtés pour lui donner l'épée ou le pistolet avec lequel on achève un adversaire qui inspire des craintes. Mais raison de plus. « Nous tombons bien bas, » dit Laurence. « Enfant, » dit le vieux marquis de Chargebœuf en les prenant tous trois par la main et les amenant à l'écart vers une des pelouses alors couvertes d'une légère couche de neige. « Vous allez vous emporter en écoutant les avis d'un homme sage, mais je vous les dois et voici ce que je ferai. Je prendrai pour médiateur un vieux bonhomme, comme qui dirait moi. Je le chargerai de demander 1 000 000 à Malin, contre une ratification de la vente de Gondreville. Oh, il y consentirait en tenant la chose secrète. Vous auriez, au taux actuel des fonds, 100 000 livres de rente, et vous iriez acheter quelques belles terres dans un autre coin de la France. Vous laisseriez régir 5 Cygnes à monsieur d'Auxerre, et vous tireriez à la courte paille qui de vous deux serait le mari de cette belle héritière. Mais le parler d'un vieillard est dans l'oreille des jeunes gens ce qu'est le parler des jeunes gens dans l'oreille des vieillards, un bruit dont le sang s'échappe. » Le vieux marquis fit signe à ses trois parents qu'il ne voulait pas de réponse et regagna le salon où, pendant leur conversation, l'abbé Gouget et sa sœur étaient venus. La proposition de tirer à la courte paille la main de leur cousine avait révolté les deux cimeuses, et Laurence était comme dégoûtée par l'amertume du remède que son parent indiquait. Aussi furent-ils tous trois moins gracieux pour le vieillard, sans cesser d'être polis. L'affection était froissée. Monsieur de Chargebœuf, qui sentit ce froid, jeta sur ces trois charmants êtres, à plusieurs reprises, des regards pleins de compassion. Quoique la conversation devint générale, il revint sur la nécessité de se soumettre aux événements en louant M. d'Auxerre de sa persistance à vouloir que ses fils prissent du service. « Bonaparte, dit-il, fait des ducs. Il a créé des fiefs de l'Empire et il fera des comptes. Malin voudrait être comte de Gondreville. C'est une idée qui peut, ajouta-t-il en regardant messieurs de Cimeuse, vous être profitable. » « Ou funeste, » dit Laurence. Dès que ses chevaux furent mis, le marquis partit et fut reconduit par tout le monde. Quand il se trouva dans sa voiture, il fit signe à Laurence de venir et elle se posa sur le marchepied avec une légèreté d'oiseau. « Vous n'êtes pas une femme ordinaire et vous devriez me comprendre, » lui dit-il à l'oreille. « Malin a trop de remords pour vous laisser tranquille, il vous tendra quelques pièges. » Au moins, prenez bien garde à toutes vos actions, même aux plus légères. Enfin, transigez, voilà mon dernier mot. » Les deux frères restèrent debout près de leur cousine, au milieu de la pelouse, regardant dans une profonde immobilité le berlingot qui tournait la grille et s'envolait sur le chemin vers Troyes, car Laurence leur avait répété le dernier mot du bonhomme. L'expérience aura toujours le tort de se montrer en berlingot, en bas chiné et avec un crapaud sur la nuque. Aucun de ces jeunes cœurs ne pouvait concevoir le changement qui s'opérait en France, l'indignation leur remuait les nerfs et l'honneur bouillonnait dans toutes leurs veines avec leur noble sang. « Le chef des Chargebœuf, dit le marquis de Cimeuse, « un homme qui a pour devise « Vienne un plus fort, ad sit fortior ». Un des plus beaux cris de guerre. « Il est devenu le bœuf, » dit Laurence en souriant avec amertume. « Nous ne sommes plus au temps de Saint-Louis, » reprit le cadet des Simeuses. « Mourir en chantant, » s'écria la comtesse. « Ce cri des cinq jeunes filles qui firent notre maison sera le mien. » « Le nôtre n'est-il pas Simeur ? Ainsi, pas de quartier, » reprit l'aîné des Simeuses, « car en réfléchissant, nous trouverions que notre parent le bœuf a bien sagement ruminé ce qu'il est venu nous dire. » « Gondreville devenir le nom d'un malin ? La demeure ? » s'écria le cadet. « Mansart l'a dessiné pour la noblesse et le peuple y fera ses petits ?» dit l'aîné. « Si cela devait être, j'aimerais mieux voir Gondreville brûler !» s'écria Mademoiselle de Cinq-Signes. Un homme du village qui venait voir un veau que lui vendait le bonhomme d'Auxerre entendit cette phrase en sortant de l'étable. « Rentrons, » dit Laurence en souriant. Nous avons failli commettre une imprudence et donner raison au bœuf à propos d'un veau. « Mon pauvre Michu, » dit-elle en rentrant au salon, « j'avais oublié ta frasque, mais nous ne sommes pas en odeur de sainteté dans le pays, ainsi ne nous compromets pas. As-tu quelque autre peccadille à te reprocher ? Je me reproche de n'avoir pas tué l'assassin de mes vieux maîtres avant d'accourir au secours de ceux-ci. « Michu !» s'écria le curé. « Mais je ne quitterai pas le pays, » dit-il en continuant, sans faire attention à l'exclamation du curé, « que je ne sache si vous y êtes en sûreté. J'y vois rôder des gars qui ne me plaisent guère. La dernière fois que nous avons chassé dans la forêt, il est venu à moi cette manière de garde qui m'a remplacé à Gondreville et qui m'a demandé si nous étions là chez nous. « Oh, mon garçon !» lui ai-je dit. « Il est difficile de se déshabituer en 2 mois des choses qu'on fait depuis 2 siècles. »« Tu as tort, Michu !» dit en souriant de plaisir le marquis de Simeuse. « Que t'a-t-il répondu ?» demanda M. d'Auxerre. « Il a dit, » reprit Michu, « qu'il instruirait le sénateur de nos prétentions. »« Comte de Gondreville, » reprit l'aîné des d'Auxerre. « Ah, la bonne mascarade ! Au fait, on dit sa majesté à Bonaparte. Et son Altesse à Monseigneur le grand-duc de Berg, » dit le curé. « Qui, celui-là ? » fit M. de Simeuse. « Murat, le beau-frère de Napoléon, » dit le vieux d'Auxerre. « Bon, » reprit Mademoiselle de Cinq-Signes, « et dit-on sa majesté à la veuve du marquis de Beauharnais ?»« Oui, mademoiselle, » dit le curé. « Nous devrions aller à Paris voir tout cela, » s'écria Laurence. « Hélas, mademoiselle, » dit Michu, « j'y suis allée pour mettre Michu au lycée, je puis vous jurer qu'il n'y a pas à badiner avec ce qu'on appelle la garde impériale. » « Si toute l'armée est sur ce modèle-là, la chose peut durer plus que nous. »« On parle de familles nobles qui prennent du service, » dit M. d'Auxerre. « Et d'après les lois actuelles, vos enfants, » reprit le curé, « seront forcés de servir. La loi ne connaît plus ni les rangs ni les noms. « Cet homme nous fait plus de mal avec sa cour que la révolution avec sa hache, » s'écria Laurence. « L'Église prie pour lui, » dit le curé. Ces mots, dits coup sur coup, étaient autant de commentaires sur les sages paroles du vieux marquis de Chargebœuf. Mais ces jeunes gens avaient trop de foi, trop d'honneur pour accepter une transaction. Ils se disaient aussi ce que se sont dit à toutes les époques les partis vaincus, que la prospérité du parti vainqueur finirait, que l'empereur n'était soutenu que par l'armée, que le fait périssait tôt ou tard devant le droit, etc. Malgré ces avis, ils tombèrent dans la fosse creusée devant eux et qu'eussent évité des gens prudents et dociles comme le bonhomme d'Auxerre. Si les hommes voulaient être francs, ils reconnaîtraient peut-être que jamais le malheur n'a fondu sur eux sans qu'ils aient reçu quelque avertissement patent ou occulte. Beaucoup n'ont aperçu le sens profond de cet avis mystérieux ou visible qu'après leur désastre. « Dans tous les cas, madame la comtesse sait que je ne peux pas quitter le pays sans avoir rendu mes comptes, » dit Michu tout bas à mademoiselle de Cinq-Signes. Elle fit pour toute réponse un signe d'intelligence au fermier qui s'en alla.